On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc, heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Premier numéro de la saison, nous sommes très heureuses de vous retrouver. Même lieu, même horaire sur le 90FM, tous les lundis à 18h et à tout moment sur radio-b.fr.
Le 15 septembre, les soignants devront avoir fait au moins une dose de vaccin contre le Covid pour pouvoir travailler. Une manifestation contre cette obligation a eu lieu devant l'hôpital de Bourg-en-Bresse.
Dans quelques minutes, vous entendrez Frédéric Labro-Goubi, directrice du centre hospitalier Fleria. Le point sur les hospitalisations de patients Covid et l'organisation sur place avec l'obligation du pass sanitaire.
Écrivain mondialement connu, il a passé une partie de son enfance dans l'Ain. Antoine de Saint-Exupéry aura bientôt un musée dédié. Et ça sera à Saint-Maurice-de-Raymans. On vous fait faire la visite.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourg, en bref.
La vaccination dans les collèges et les lycées est lancée.
Les jeunes de plus de 12 ans peuvent aller se faire vacciner gratuitement pendant le temps scolaire. C'est sur la base du volontariat et avec une autorisation parentale. Une centaine d'établissements de l'Ain participent à cette campagne.
Si vous le pouvez, il y a urgence à donner votre sang. Les réserves sont faibles.
L'établissement français du sang, EFS, organise de nouvelles collectes à Bourg-en-Bresse. Ça se passe les 10 et 11 septembre à la salle des fêtes, Esplanade de la Comédie. C'est sur inscription et sur rendez-vous. Plus d'informations sur le site de l'EFS. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour donner son sang.
Un nouveau bilan sur l'économie sociale et solidaire dans l'Ain.
La GLCA, le Centre Ressources pour la Vie Associative, a dévoilé fin août les résultats de 6 mois de travail. Une étude faite en lien avec la Chambre régionale de l'ESS. Deux étudiantes ont étudié la place de l'économie sociale et solidaire dans l'Ain et surtout sur le Grand Bourg agglomération, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et celle de Bugey Sud. On les écoute.
Bonjour, je suis Audrey Poulain.
Bonjour, je suis Manon Jeannet-Salomon.
On a fait ce travail en plusieurs phases, une phase exploratoire puisqu'on a découvert le territoire parce qu'on n'est pas du tout d'ici. Donc ça, c'était aussi un des critères qui a fait qu'on a pu avoir un regard un petit peu plus extérieur. Donc on a découvert ça pendant à peu près 2 mois, phase exploratoire. Et ensuite, on a mené d'autres entretiens et là, plutôt avec des structures qui font partie de l'ESS. Donc pour rappel, les structures qui font partie de l'ESS, ce sont les associations et qui concentrent la majorité des structures de l'ESS. Ensuite, on a les coopératives. Les mutuelles et enfin les fondations. Donc pour l'étude, on a choisi d'étudier principalement les associations et les coopératives qui sont surtout représentées sur ce territoire. Donc voilà. Et donc les entretiens qu'on a menés, c'était avec des structures qui font partie de l'ESS et qui agissent sur le territoire.
Donc voilà, c'était vraiment pour comprendre un peu leur rôle dans le territoire et comment on pouvait les favoriser puisqu'elles impulsent des dynamiques assez particulières, des projets collectifs, des répercussions financières, sociales, culturelles, la valorisation de ressources du territoire. Enfin, vraiment, elles participent vraiment au développement du territoire et c'est pour ça que c'est un enjeu de la développer pour les territoires. Au niveau de l'Ain, ça représente 10% des emplois, mais au niveau de, par exemple, du Grand Bourg agglomération, ça représente près de 14% d'établissements, donc ce qui est assez énorme.
Lorraine Pastiot, chargée de mission à l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire, était aussi présente à cette restitution. Elle nous en dit plus sur l'ESS et la Chambre de l'économie sociale et solidaire.
Alors l'économie sociale et solidaire, donc ça va être tout ce qui est association, mutuelle, fondation, coopérative. Et depuis 2014, il peut aussi y avoir des sociétés commerciales qui sont agréées économie sociale et solidaire par le greffe du tribunal.
Est-ce que vous pouvez expliquer donc les missions du CRES ?
Alors la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire a pour mission principale d'accompagner donc toutes les entreprises de l'ESS, donc les porteurs de projets, les entreprises déjà créées, notamment pour les développer, pour qu'il y en ait de plus en plus. Et puis aussi, elle a pour mission de coopérer, fédérer ces différentes structures pour qu'elles puissent mutualiser leurs moyens, faire remonter des besoins. Et donc, on a un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics, justement pour faire remonter ces différents besoins et puis trouver des solutions pérennes pour ces structures. Et
donc vous êtes à l'Observatoire. Pourquoi un observatoire ?
Et bien, tout simplement pour promouvoir l'ESS, pour montrer le poids que ça représente, pour pouvoir et que ce soit visible. Si on n'a pas de chiffres, ça reste que des paroles et on ne se rend pas compte, et avec les données, voilà, on se rend compte du poids que ça représente.
Et quels seraient les enjeux pour l'ESS dans les années à venir ?
Les enjeux, c'est notamment pour les associations de trouver un modèle économique qui leur permette de moins dépendre des subventions et des politiques. Et du coup, des politiques qui soutiennent ces structures, non pas seulement sur du projet, mais aussi sur du fonctionnement et de l'investissement.
C'était Lorraine Pastiot, chargée de mission à l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire.
Le réseau de transport Ruby lance un défi aux habitants.
L'objectif, réduire l'utilisation de la voiture dans nos trajets quotidiens. Pendant 15 jours, le groupe Keolis, l'opérateur du réseau Ruby, invite des habitants de l'agglomération de Bourg à laisser leur voiture sur un parking. Les déplacements devront se faire en transport en commun ou en vélo. C'est du 6 au 23 octobre. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 septembre en ligne. Le lien est disponible sur la page Facebook Ruby Grand Bourg Mobilité. Vous bénéficierez alors d'une place de parking gratuite et de la gratuité du réseau de transport pour 15 jours.
Les médiathèques de Bourg sont gratuites pour les Burgiens.
Depuis cette rentrée, plus besoin de payer pour emprunter des livres, mais seuls les habitants de Bourg-en-Bresse y ont droit. Pour les autres, c'est 40 euros à l'année ou 6 euros pour les moins de 26 ans. Sylviane Chen, élue en charge de la culture, nous explique ce choix.
Cette gratuité des médiathèques, elle a un sens extrêmement important dans la mesure où c'est un levier supplémentaire, on va dire, qui est activé pour permettre l'accès spontané et aisé au plus grand nombre à un équipement culturel majeur, un équipement culturel de proximité et aussi un équipement culturel qui est une véritable porte d'accès à un certain nombre d'autres services culturels. Donc cette gratuité, c'est surtout que psychologiquement, elle indique aux habitants de la ville de Bourg-en-Bresse que tout le monde a sa place dans sa médiathèque de proximité ou dans le réseau des médiathèques d'ailleurs en général, puis que tout le monde peut y être accueilli, que elles sont un véritable lieu de vie pour tous les Burgiens et qu'elles sont un lieu de ressources, un lieu d'aide, un lieu d'ouverture et un lieu d'accueil.
Unicité cherche des jeunes volontaires en service civique.
Si vous avez de 16 à 25 ans et que vous êtes disponible à partir du 2 novembre et pour une durée de 8 mois, vous pouvez devenir volontaire en service civique pour Unicité. Le principe, vous travaillez du mardi au vendredi sur le terrain pour répondre à de grands besoins sociaux, comme l'aide aux personnes âgées, la santé, l'environnement par exemple.
L'invité de Radio B.
Frédéric Labrogoubi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Combien y a-t-il de lits de réanimation à Fléria et donc combien sont occupés à ce jour par des patients Covid ?
Alors, à ce jour, on a 19 lits de réanimation et de soins continus ouverts dans l'établissement. Il y a 4 lits qui sont occupés par des patients Covid.
Comment vont les personnels de l'hôpital ?
Alors je pense que les personnes de l'hôpital, ils sont entre différentes étapes dans leur ressenti, tout du moins. Ils savent que on est aussi présent à eux et qu'on a essayé vraiment un maximum de faire en sorte que cet été se passe pour le mieux en termes d'organisation des services, avec néanmoins des difficultés hein, sur l'absence dans certains d'entre eux. Je pense qu'ils étaient, peut-être le sont-ils encore, tout du moins on l'est tous, harassés par l'année et demie que l'on vient de traverser et de partager. Je pense qu'ils ont eu aussi un certain nombre de signes qui ont été posés au niveau national, notamment par le Ségur de la Santé, sur la revalorisation de leur métier. Et nous-mêmes, nous avons choisi, à Bourg-en-Bresse spécifiquement, pour l'année 2020, d'honorer les heures supplémentaires qui étaient dues, pour redonner aussi un signe concret et tangible, hein, à l'investissement de tous ces professionnels pendant cette année et demie. Je crois qu'ils sont comme moi, c'est-à-dire que ils attendent effectivement de voir quelles vont être les évolutions épidémiologiques dans les prochaines semaines à l'issue de la rentrée. Qui sont prêts, mais avec quand même toute la fatigue que l'on a pu connaître et cumuler lors de ces derniers mois.
Frédéric Labro-Goubi, le pass sanitaire, un test négatif de moins de 72 heures ou une attestation de guérison du Covid de moins de 6 mois est obligatoire depuis le 9 août pour entrer dans les hôpitaux. Cette obligation ne concerne pas les urgences. Y a-t-il d'autres exceptions ?
Comme vous le savez, le calendrier de mise en œuvre a été très rapide. La loi est sortie le 5 août. L'établissement l'a mise en œuvre dès le 11 août, tel que ça avait été acté avec les autorités de tutelle et avec la préfecture. On a essayé d'être le plus rapide possible. L'objectif, on l'a toujours dit et écrit, c'est d'abord et avant tout d'assurer l'accès aux soins et la continuité des soins. Ça veut dire que, au-delà des urgences, il y a aussi toute une partie de la population qui est prise en charge pour des maladies chroniques, que ce soit effectivement dans des services de chimiothérapie, dans des services de radiothérapie, ou encore sur la néphrologie dialyse. Tous ces segments-là ne sont même pas interrogés en termes d'accès aux soins. Il en est de même pour le suivi des femmes enceintes, et ça j'insiste là-dessus, et des enfants en pédiatrie. Je dirais que ces domaines-là ne sont même plus des exceptions, mais des aménagements concrets qui n'ont conduit à jamais refuser un accès aux soins. Donc en fait, je dirais qu'on a une politique assez souple d'accès aux soins. Il y a eu une évaluation avec les médecins et les soignants de la mise en place du pass sanitaire au centre hospitalier. Et aujourd'hui, je le dirais à la satisfaction de tous, elle n'a fait ressortir aucune difficulté à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a eu des adaptations majeures. Notre première version de l'organisation spatiale n'était pas adaptée. On l'a complètement revue. On a complètement revu le contrôle au point d'accès par bâtiment. On a eu dès le départ une prescience très importante sur le domaine de la maternité et de la pédiatrie, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et on sait que la parentalité, elle est essentielle. Donc il n'était pas dans notre idée de scinder les couples ou les familles à ce moment-là, et dans la préparation et dans l'accouchement. Par contre, notre tolérance, elle est moindre sur les accompagnants qui viendraient en nombre en famille, alors que l'on sait que, et ça a pu être le cas au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse comme dans d'autres établissements, il y a pu y avoir des contaminations dans l'établissement quand à un moment donné de la crise, des gens n'ont pas respecté les règles de visite. Et ça, il est pour nous impensable, dans le contexte en plus de passe sanitaire, de faire qu'il y ait des contaminations avec derrière potentiellement des décès, ce qui serait irresponsable à une période où la vaccination permet de dépasser largement cette question-là.
Frédéric Labro-Goubi, on peut peut-être rappeler concrètement qu'en est-il en cette rentrée 2021 pour les visites au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ?
Moi, je considère qu'à partir du moment où les personnes présentent le pass sanitaire, on ne peut plus limiter les visites. Il y a des secteurs sur lesquels on est plus attentif, en ce moment particulièrement. Ce sont les urgences, parce que comme on autorise les personnes à venir sans pass, on peut supposer parfois que les personnes qui l'accompagnent n'ont pas de passe. Donc on a limité le nombre de visiteurs aux urgences, mais aussi au pôle mère-enfant, parce que derrière, dans la même politique de tolérance qu'on a pu avoir, on ne peut pas se permettre d'avoir toute une proche d'une famille non vaccinée qui soit présente dans le service. Donc on est plus restrictif sur ces deux secteurs-là. Pour les autres secteurs, on revient aux règles antérieures, c'est-à-dire que les gens doivent veiller tout simplement dans la visite à ne pas être trop nombreux, parce que ça concerne aussi l'organisation des soins et la prise en charge des autres patients, à respecter du coup effectivement les autres personnels du service et les patients du service. Donc on est revenu non pas encore à une normale absolue, mais les choses vont, de toute façon, plus on avancera dans le champ de la vaccination, plus les éléments vont se normaliser dans les, je l'espère, comme je disais tout à l'heure, dans les jours et les semaines à venir.
Frédéric Labro-Goubi, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Le pass sanitaire est donc obligatoire depuis le 9 août pour les consultations à l'hôpital ou encore pour aller au restaurant ou au musée. Depuis le 30 août, il est obligatoire pour les salariés en contact avec du public, parmi eux les personnels travaillant dans les établissements de santé ou médico-sociaux. À partir du 15 septembre, les soignants doivent avoir reçu leur première dose de vaccin et un test de non-contamination. Le 15 octobre, entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des soignants. En clair, ils devront avoir reçu les deux doses. Si ce n'est pas le cas, ces salariés seront suspendus sans rémunération. Le gouvernement le précise, ne pas être vacciné contre le Covid n'est pas un motif de licenciement. Le pass sanitaire est pour l'instant obligatoire jusqu'au 15 novembre. Emmanuel Macron, le président de la République, n'exclut pas de le maintenir après cette date dans les territoires où le virus est très présent. Inès, mardi dernier, une manifestation a eu lieu devant l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Ils étaient une petite centaine.
Elle était organisée par un comité créé le 19 août. Son nom, le Comité de salariés et professions libérales de l'Ain pour l'abrogation de la loi gestion de la crise sanitaire. Il s'est organisé à l'issue de deux assemblées générales. Dans ce comité, des soignants, mais aussi d'autres salariés. Ils sont opposés au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Roland Mirguet est syndicaliste, il est porte-parole du comité. Il nous explique pourquoi il a été créé.
On dénonce ce pass qui, pour nous, n'a rien de sanitaire, mais qui est le pass de la honte parce qu'il martyrise des catégories de population, dont les salariés, qui sont menacés de suspension de traitement, alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils sont simplement pas vaccinés. Donc, c'est contraire au code du travail, parce que normalement, on est suspendu de traitement quand on commet une faute lourde, et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour nous un sentiment d'injustice très fort. On a des mesures de répression qui empêchent justement qu'un vrai débat se tienne. Personnellement, je n'ai pas de position sur cette question du vaccin. Et dans les manifestations, il y a beaucoup de vaccinés et de non-vaccinés. Simplement, on voudrait que justement pouvoir éclaircir ce qui se passe et puis surtout prendre des mesures sanitaires. Par exemple, pourquoi on n'ouvrirait pas des lits si vraiment il y a des problèmes sanitaires importants? Alors qu'aujourd'hui, on supprime des lits. Depuis mars 2020, il y a eu 1800 lits de supprimés en pleine pandémie. Pourquoi, si c'était sanitaire, pourquoi ne remettons pas en cause ces suppressions et pourquoi ne créons-t-on pas tous les lits nécessaires pour faire face, si vraiment il y a besoin, à cette pandémie et à toutes les maladies d'ailleurs qui ne sont pas que le Covid.
Donc concrètement, si on résume, que souhaite le comité que vous avez créé, que vous structurez ?
L'abrogation de la loi. Tout simplement parce qu'elle est anxiogène et puis qu'on veut justement pouvoir vivre librement et débattre démocratiquement, sans contrainte. Ça fait partie des droits démocratiques dans ce pays. Et puis on veut pouvoir garder nos droits sociaux, notre droit à l'emploi, sans menace d'aucune sorte. Et on ne veut pas non plus que certains soient transformés en parias parce qu'ils n'obéissent pas à une injonction gouvernementale qui n'est pas justifié à leurs yeux. Ils demandent des comptes et ils ont raison.
Le comité pour l'abrogation de la loi gestion de la crise sanitaire devrait poursuivre sa mobilisation en distribuant des tracts mardi à la sortie de cours devant certains lycées. Une infirmière qui fait aussi partie du comité nous donne son ressenti. Elle trouve compliqué d'imposer une vaccination aux patients pour se faire soigner.
Ça crée un malaise, ça crée... une confiance qui a plus, un lien qui est différent. On est quand même obligé de vérifier, de parler de vaccins avant de parler de leurs propres soins. Ça crée une tension qui n'y avait pas avant.
Cette infirmière le précise, le comité n'est pas contre la vaccination en général. Le 15 septembre, les soignants doivent avoir leur première injection du vaccin. Ils vont devoir choisir entre accepter cette vaccination ou être suspendus.
La question, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin, nous, on ne se pose pas ça du tout. On est soignant, on sait qu'il y a des médicaments qui marchent. C'est pas ça. C'est vraiment que là, l'obligation, elle est hyper violente pour nous. En gros, si on ne veut pas se vacciner, on a 2 mois pour trouver un autre travail. C'est hyper violent. Je sais pas à quelle profession on peut dire ça, hein, mais je pense qu'il n'y a que aux infirmières qu'on peut faire vivre ça, finalement.
Et selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, au 24 août, plus de 85% des personnels des hôpitaux et des EHPAD avaient reçu au moins une injection.
Merci Inès. Frédéric Labrogoubi, comment a été accueillie l'obligation vaccinale par les soignants de l'hôpital ?
L'obligation vaccinale des professionnels, ça n'a rien à voir avec le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas mélanger. Ce n'est pas parce qu'on dit que l'obligation, elle est remplie grâce à la présentation d'un pass sanitaire, qu'elle se confond avec la question de l'obligation vaccinale des professionnels. Cette obligation vaccinale, elle est historique dans le domaine des établissements de santé. Elle existe sur d'autres domaines de prise en charge. et elle a été reconnue comme essentielle, notamment par exemple sur les hépatites ou sur toutes les vaccinations obligatoires. C'est une condition d'exercice du métier. Voilà. Et c'est une condition d'exercice que nous, on a essayé d'accompagner. C'est-à-dire que je reviens sur la temporalité. La loi sort le 5 août et on a cette obligation de mise en œuvre pour le 15 septembre, ce qui, je l'accorde aux uns et aux autres, est extrêmement rapide. Donc, dans ce temps-là, comment faire ? Donc, on n'avait pas attendu le 5 août. Ça fait des semaines que l'on propose aux professionnels soit des créneaux de vaccination complémentaires en interne. Il y a eu une très belle campagne sur quel est l'intérêt pour les soignants et comment les soignants peuvent parler aux soignants sur ce qu'ils ont vécu pendant la crise, de la difficulté de ce qu'ils ont vécu et en quoi ils pensent que la vaccination est une vraie porte de sortie pour la crise. Donc on a fait beaucoup de pédagogie en la matière. On a essayé aussi d'accompagner les professionnels sur les délais, hein, c'est-à-dire en disant on leur a écrit, je crois, fin juillet ou en juillet déjà pour leur dire « renvoyez-nous notre schéma vaccinal ». On a refait un rappel en août. Là, effectivement, on est dans une étape qui encore est pédagogique. C'est-à-dire que cette semaine, on va recevoir tous les agents sur lesquels on n'a pas encore eu le schéma vaccinal. Non pas pour discuter avec eux de l'intérêt de la vaccination, parce que, comme vous le savez, un directeur d'hôpital n'est pas médecin, donc ce n'est pas l'objectif. Hein. Mais pour dire, est-ce que concrètement, vous avez eu des difficultés d'accès à la vaccination ? Est-ce que concrètement, vous avez des difficultés pour récupérer des documents ? Est-ce que vous avez bien conscience de l'impact que peut avoir la non-réalisation de l'obligation vaccinale ? Parce que ça aussi, c'est important. Hein. Il y a ce qui est de l'ordre de la posture, et puis ce qui est l'ordre de la réalité, c'est-à-dire l'impact que pourront avoir ce type de décision. Un, sur les professionnels concernés. Deux, sur les organisations des établissements. Ici comme ailleurs, en fait. Hein, le débat est bien plus large que la situation seulement burgienne, même si je ne prendrai position que sur celle-là. Et effectivement, à partir du 15 septembre, si on n'a pas l'engagement des acteurs de s'inscrire dans un schéma vaccinal, les agents seront suspendus. Ça ne veut pas dire que la suspension sera définitive. J'insiste là-dessus. Hein. On proposera aussi à des agents de revoir des médecins de l'établissement, s'ils ont des questions complémentaires encore sur la vaccination, etc. Après, que des agents formulent le fait que, entre guillemets, la décision qui pourra avoir des conséquences importantes est rapide, je l'entends. Pour autant, pourquoi elle est rapide ? Parce qu'elle s'inscrit dans cette lutte et cette course effrénée contre la contamination qui fait que c'est pas par hasard que ce soit le 15 septembre. Vous voyez bien que c'est aussi à mettre en perspective avec la rentrée scolaire et la reprise d'un ensemble d'activités. Moi, je veux éviter effectivement ce que dit ce monsieur, c'est-à-dire que je veux éviter d'avoir à réorganiser une fois de plus encore l'hôpital pour accueillir des patients qui seraient non vaccinés et les prendre en charge. Je crois que l'établissement l'a déjà fait à très nombreuses reprises.
Donc, si on parle bien d'obligation vaccinale, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet des soignants de l'hôpital, est-ce que donc la majorité s'est faite vacciner contre le Covid ?
Alors aujourd'hui, oui, les signaux sont plutôt très positifs en fait, hein. De jour en jour. Alors je crois qu'on est plus sur une problématique de réunion des informations que d'opposition en fait, hein. Comme on le disait tout à l'heure, ça s'est passé pendant l'été. Le temps que les gens nous adressent les documents du schéma vaccinal, qu'on enregistre tout, qu'on vérifie bien qu'ils n'ont pas eu de difficultés eux-mêmes pour se faire vacciner ou pour leurs organisations, ça a laissé un petit peu de temps. Donc là, pour vous donner une idée, on a eu un peu plus de 14% d'évolution de réception des schémas vaccinaux sur une semaine. Et les personnes dont j'ai aujourd'hui pas encore reçu le schéma vaccinal, je sais très bien que pour peut-être 95% d'entre elles, ce n'est qu'un problème d'oubli et de mise au clair administrative et pas un problème d'opposition vaccinale. Donc moi, je suis relativement optimiste, voire très optimiste. On est effectivement dans les standards nationaux en termes de personnes qui nous ont adressé des schémas vaccinaux.
Et donc pas de manque d'effectifs à prévoir si des personnels ne sont pas vaccinés ?
Alors, le manque d'effectifs, il est pas forcément lié à l'obligation vaccinale. Il est lié aussi au fait que, vous savez, d'une année à l'autre, on recrute en sortie d'école ou de mutation. Que cette année, on avait des objectifs de recrutement extrêmement importants parce qu'on a développé de nouvelles activités. En gros, sur les infirmières, on avait un objectif de 80 postes de recrutement, ce qui est énorme, hein, quand même. Je le mets à la lumière aussi du fait que Fleuria est le premier employeur quand même de Bourg et de Lain, hein, et que sur ces 80, on en a réalisé 67. Donc on pourrait se dire, non, franchement, c'est pas terrible. Sauf que déjà, 67 recrutements, dans un temps post-Covid, où on a des difficultés à dire, avec un message qui a été matraqué, à mon avis, de façon exagérée, sur le fait que, certes, les métiers du soin étaient valorisés, mais que c'était des métiers qui étaient extrêmement exposants, ce qui est vrai, hein. On a réalisé déjà une grosse partie de nos recrutements. Donc les difficultés, indépendamment de l'obligation vaccinale, elles seront peut-être plutôt liées par rapport effectivement au fait que nous n'ayons pas réalisé notre cible complète de recrutement.
Frédéric Labrogoubi, merci.
Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir accueilli.
Vous êtes la directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ben, ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Antoine de Saint-Exupéry, l'écrivain, aviateur et journaliste, a passé une partie de ses étés dans l'Ain, une grande demeure située à Saint-Maurice-de-Raymond. C'était la propriété de Gabrielle de Tricot, la grande tante de la mère d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle a été rachetée par la région. En 2025, elle devrait accueillir un musée dédié à l'auteur du Petit Prince. On vous fait visiter cette bâtisse, surnommée le château de Saint-Exupéry.
Sylviane Bouchard, je suis première adjointe à la mairie de Saint-Maurice-de-Raymond et j'habite cette commune depuis plus de 30 ans. Cette grosse bâtisse est une grosse maison bourgeoise. Dans le village, on l'appelle le château, puisque c'était la famille de Saint-Exupéry qui venait en vacances l'été, essentiellement.
Vous allez nous faire le petit tour.
Oui, avec plaisir.
Donc en ce moment, c'est pas habité, il se passe rien à l'intérieur.
Non, actuellement, tout est vide et dans l'attente du projet que va nous faire la région. Ah là, je vais enlever l'alarme. Donc devant vous, le vestibule, à gauche la salle à manger et à droite la bibliothèque. Donc ce sont des pièces qui sont restées telles quelles par rapport au départ de la famille de Saint.
Donc là on est dans le salon.
Oui, c'est la salle à manger exactement. Si la famille revenait, la pièce n'a pas changé. Vous voyez la table, il y a aussi des chaises. Vous avez la grande armoire qui contenait toute la vaisselle familiale, on va dire. Vous retrouvez derrière vous la cheminée avec sa petite cache pour garder les plats au chaud. Voilà, ce sont les éléments essentiels. Mais le carrelage, tout ce qui est au mur, le plafond qui est quand même assez stylé, tout est tel quel, comme en 1932.
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher, ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion ».
Patrick Don, moi je suis chargé de communication à l'ASPME Saint-Exupéry. Alors cela veut dire Association pour la sauvegarde et la promotion de la maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, puisque la famille Saint-Exupéry, enfin Marie de Saint-Exupéry était propriétaire du château jusqu'en décembre 1932. Mais ensuite, il y a eu une vie après la famille Saint-Exupéry, puisque dès 1933, ici c'était une colonie préventorium jusqu'en 1953. Et de 53 à 86, un internat. Donc toutes les pièces, hormis celle-ci, celle qu'on a vue, que vous avez vue, la salle à manger, et qui servait aussi de bureau pour les directeurs de l'internat. Tout le reste a été complètement chamboulé. Aux étages, par exemple, ça n'a plus rien à voir avec l'époque de la famille de Saint-Aix. Puisqu'il y avait des dortoirs, il y avait un petit peu de... On ne vous fera pas visiter le reste pour des raisons de sécurité. Ça serait dommage. La chambre de Saint-Exupéry, enfin d'Antoine, qui donne sur la...
Sur le parc.
Sur la droite, qui donne sur le parc, le plancher s'effondre. Donc, ce château, enfin ce domaine-là, donc, n'a plus été habité depuis 1996. La mairie s'est occupée de l'urgent, mais à partir de 2009, pour éviter une trop grande dégradation du domaine et qu'il y ait du mal irréparable de fait, quoi. Antoine de Saint-Exupéry, ici, n'est pas resté très longtemps. Il venait pour les vacances d'été, mais par contre, ça l'a profondément marqué. C'était les années bonheur pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il disposait d'un parc, alors là, il est magnifique, mais il faut s'imaginer que c'était une forêt à l'époque. C'était une forêt. Quand on reprend des photos, par exemple, qui sont dans « 5 enfants dans le parc », un livre qui a été écrit par Simone de Saint-Exupéry, qui raconte donc leur enfance. Ici, vous aviez une multitude d'arbres. C'était une forêt, hein. C'était une véritable forêt. Donc pour les enfants, c'était vraiment le bonheur total, parce qu'ils pouvaient installer des cabanes. Hein. Et donc c'était vraiment les années bonheur d'Antoine de Saint-Exupéry, d'autant qu'il était, il avait une maman qui était extrêmement bienveillante, très patiente, très, très à l'écoute. J'allais dire une éducation qui aujourd'hui ne surprendrait pas, c'est-à-dire une éducation basée sur l'écoute, sur le dialogue avec les enfants, mais qui à l'époque était plus que surprenante, c'était très avant-gardiste. Hein. Et donc elle lui a développé le goût pour les arts, pour la musique, il n'était pas très doué visiblement, mais pour le dessin, puisque elle peignait, hein, pour le dessin, et puis une très grande...
J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle, et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. C'était mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une manie.
Et donc, est-ce qu'on sait exactement de quel âge à quel âge il venait ici ?
Au décès donc du papa d'Antoine en 1904, la famille est venue de plus en plus régulièrement à l'invitation de Gabriel de Tricot. Donc on peut considérer que lui... Il est venu de 1904 à 19... Donc c'était plus des petites périodes et sur sa petite enfance.
Est-ce que dans ses écrits, on sait exactement ce qu'il faisait ici, ce dont il se rappelle, des souvenirs ici ?
Il parle beaucoup du parc, il parle beaucoup de la maison, que ce soit dans Terre des Hommes, que ce soit dans Pilote de guerre ou dans différents courriers qu'il envoyait dans ses correspondances. Donc systématiquement... Il fait référence au parc, à la maison, au vestibule. C'est vraiment quelque chose qui l'avait profondément marqué. Hein. Quand il était à Cap Jubé, il écrivait à sa maman et il se remémorait la verdure du parc par rapport au sable.
J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort, j'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sol, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan, alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ».
Vous aurez peut-être reconnu des extraits du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1943 et lu par le comédien Bernard Giraudeau. Un lieu pour faire découvrir ou redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry au monde entier et en particulier aux locaux.
Saint-Exupéry parle plus à l'international que malheureusement à proximité parfois. J'ai eu des réflexions de gens qui disent « Ah ben on ne savait pas que Saint-Exupéry » alors qu'ils sont à 10 km.
Saint-Exupéry est plus connu à l'international qu'en France. Et donc, eh ben, un autre challenge maintenant, c'est de le faire connaître aussi en France et d'amener des gens de notre pays à venir voir ce lieu et à rêver aussi, quoi.
La bâtisse de la famille de Saint-Exupéry a été vendue en 1932 à la caisse des écoles de la ville de Lyon. Elle a ensuite été la propriété de la ville de Saint-Maurice-de-Raymond en 2009. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain voulait en faire un musée dès 2017, mais a dû abandonner faute de fonds suffisants. La région a donc décidé de racheter la bâtisse pour rendre ce projet possible. Les travaux vont débuter en 2023 avec un budget estimé pour l'instant à 30 millions d'euros. Sont aussi impliqués dans le projet la commune de Saint-Maurice-de-Raymond et la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, ainsi que la Fondation du patrimoine. Les héritiers d'Antoine de Saint-Exupéry sont aussi impliqués dans ce projet. Le musée sera un lieu symbolique pensé pour les jeunes et les familles. Il devrait utiliser les nouvelles technologies pour mettre en avant l'héritage de l'écrivain.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Bonne journée sur le 90FM.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc, heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.